Le livre de Jérôme Fourquet part de faits, de chiffres, de statistiques, de résultats d'enquête d'opinion, et tout ça est utilisé pour mener une analyse approfondie des transformations de la société française depuis, je dirais, à peu près une quarantaine d'années. Et c'est un travail considérable qu'il a mené, avec le concours d'un géographe cartographe, qui est Sylvain Manternac. Tout cela donne vraiment un livre très riche, qui ne manque pas évidemment de soulever beaucoup d'interrogations, de questions. J'imagine que nous aurons l'occasion d'en parler. Les questions, nous en avons, vous en aurez certainement à la fin de cette conférence. Ce que l'on peut dire rapidement avant de donner la parole à Jérôme Fourquet, c'est que Jérôme Fourquet met en évidence, en les interrogeant, je dirais, une multitude de phénomènes qui attestent de la perte, ou en tout cas d'un considérable affaiblissement d'un socle culturel commun, et il en tire un certain nombre de conséquences quant à la physionomie de notre société. Et c'est de tout cela dont il parle dans son livre, en plus évidemment des conséquences aussi, des évolutions, des transformations économiques, des conséquences de la mondialisation, avec dans une dernière partie de son ouvrage tout ce que cela traduit dans les recompositions, les évolutions politiques récentes dans notre pays. Alors, nous avons intitulé cette conférence autour du livre, nous avons posé quatre grandes interrogations qui reprennent assez largement les parties de l'ouvrage de Jérôme Fourquet. Nous allons évoquer la question du modèle républicain et l'affaiblissement du christianisme. Nous allons ensuite évoquer plusieurs questions qui ont trait aux fractures de cette société française qui font que nous vivons donc dans un archipel français, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jérôme Fourquet. Donc, dans un premier temps, il va nous exposer les principaux points donc, de son ouvrage. J'aurai l'occasion ensuite de lui poser un certain nombre de questions qui m'ont été données, qui m'ont été suggérées, et puis vous aurez ensuite la parole. Je lui laisse donc la parole pour aborder la question la question de notre culture républicaine et de l'affaiblissement du christianisme.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc ce livre, L'archipel français, vise à dresser un constat assez clinique de l'état de notre société et de revenir sur les processus, les événements, les phénomènes qui avaient abouti à la situation que nous connaissons. Si nous avons décidé de l'appeler l'archipel français, eh bien c'est parce que nous faisons le constat d'un degré de fragmentation sans précédent de notre société. Il ne s'agit pas de communier dans la mémoire d'un âge d'or où la société française aurait été une et indivisible. Il y a toujours eu beaucoup de divisions, mais le constat qu'on peut faire, c'est que ce degré de division est aujourd'hui sans précédent. S'il est sans précédent, c'est parce que c'est l'hypothèse principale du livre, un certain nombre de grandes matrices structurantes qui ont donné sa cohésion et sa cohérence à la société française sur la longue durée, en gros depuis la Révolution française, soit ont disparu, soit sont très fortement délités, voire complètement disloqués. Si on regarde cette histoire de longue durée, on peut se dire que l'histoire de la société française peut se lire comme un affrontement entre deux blocs, le bloc catholique d'un côté et le bloc républicain et laïque, et ces deux piliers se sont affaissés. Si on commence par ce qui est du bloc catholique, vous avez vu peut-être dans le livre, on s'appuie sur différents outils pour mener nos investigations, à la fois l'outil sondagier, parce que je cordonnier bien chaussé, je travaille à l'IFOP, donc j'avais un certain nombre de données en ma possession, mais donc on pense plus sérieusement que c'est un outil assez intéressant pour mesurer les attentes, les valeurs, les croyances et leurs évolutions au fil du temps. Un autre dispositif, un autre type d'outil, type de données, comme vous l'avez rappelé, ce sont les données cartographiques, puisqu'on pense que l'analyse spatiale ou géographique des faits sociaux est aujourd'hui absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe dans la société française. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le phénomène des gilets jaunes, mais cette crise sans une grille de lecture un peu géographique est incompréhensible. Et donc, du coup, ça complète l'outil sondagier qui est assez jacobin, si je puis dire, dans son existence, puisque nous travaillons essentiellement sur des échantillons de 1000 à 2000 personnes qui donnent des résultats fiables sur l'ensemble de la population, mais quand il s'agit de les décliner au plan territorial, sur une base de 1000 ou 2000 individus, on est quand même un petit peu court. Donc c'est pour ça que ça se, l'outil cartographique complète utilement cet outil sondagier. Et puis, troisième grande source, alors il y en a d'autres, hein, mais troisième grande source de matériaux que nous avons utilisés, c'est l'étude des prénoms qui sont donnés aux enfants en France. On a pu travailler de manière exhaustive puisque l'INSEE met à disposition de qui veut sur son site un gigantesque fichier qui recense depuis 1900 toutes les naissances intervenues dans notre pays, année après année, département par département, avec le premier prénom qui était donné à l'enfant qui était né. Et donc ça fait un corpus, ça constitue un corpus de 83 à 84 millions de naissances. Et donc c'est ça que nous avons passé au tamis. Et vous allez voir que c'est assez instructif et tout à fait éclairant d'un certain nombre d'évolutions. Donc, je referme cette parenthèse méthodologique pour revenir à la question de la dislocation de la matrice chrétienne. Alors, bien évidemment, parler de la déchristianisation, c'est pas un scoop, et beaucoup de gens très éclairés et très affûtés ont fait ce constat bien avant nous. Je pense notamment aux travaux de Marcel Gauchet, sur le désenchantement du monde et sur sa fameuse thèse de la sortie de la religion qui date du début des années 80, mais nous arrivons quasi 35 ou 40 ans après, et on peut dire que ce processus ou cette thèse a été amplement validée, que nous sommes maintenant arrivés au stade terminal de ce phénomène de déchristianisation. Alors quelques chiffres et illustrations pour bien prendre la mesure des choses. D'une part, si on s'appuie par exemple sur les données de l'IFOP, l'IFOP, qui est une vieille maison, avait sondé les Français en 1961, donc à la veille du Concile de Vatican II, qui allait changer beaucoup de choses dans l'Église. Et à l'époque, 35% des Français déclaraient aller à la messe tous les dimanches ou plus. On a reposé en 2012 la même question, alors à l'identique, et ça faisait un peu bizarre de demander si on allait tous les dimanches ou plus en 2012, mais donc on a reposé à l'identique pour pouvoir comparer terme à terme les résultats, et on obtient le chiffre de 5%. Vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, deux générations, on est passé de 35% de catholiques pratiquants à 5%. Alors vous allez me dire que déjà au début des années 60, les catholiques pratiquants étaient minoritaires. Ce qui est vrai, mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage et vous pesez encore de manière tout à fait substantielle dans les équilibres. De la même manière, à 5%, les catholiques n'ont pas disparu, ils sont bel et bien présents encore, mais ils ne représentent plus qu'une des îles de l'archipel français, alors qu'il y a encore une cinquantaine d'années, ils en étaient un des deux ou trois piliers structurants et constitutifs. Si maintenant on prend d'autres types de données, par exemple celles qui proviennent de l'Église elle-même, la Conférence des évêques de France publie régulièrement un certain nombre de statistiques, et on a été regarder un peu de plus près tout cela, et on voit par exemple, on a retrouvé par exemple des données sur l'évolution du nombre de prêtres diocésains en France. À la fin des années 90, il y avait encore 20 000 prêtres diocésains en France. Nous sommes aujourd'hui arrivés au seuil de 12 000 seulement. Donc on a perdu 40% de l'effectif en 20 ans. Et donc si vous prolongez la courbe, ce que les sondeurs aiment bien faire, qu'on intègre en plus le paramètre du vieillissement de cette population, on peut faire l'hypothèse mathématique qu'à horizon de 25 ou 30 ans, il n'y ait plus de prêtres catholiques en France. Donc quand on parle de déchristianisation, on est vraiment cette fois arrivé à l'os. Alors cette hypothèse peut être contrebattue, contrecarrée, elle est déjà en partie, par l'action résolue de l'épiscopat qui recrute et fait appel à des prêtres qui viennent d'autres continents pour combler les effectifs. Et donc on a là un retournement historique assez cocasse, hein, puisqu'on rappelle que au début du XXe siècle, la France, fille aînée de l'Église, représente ou fournit à elle seule 70% des missionnaires que Rome envoie partout sur la planète évangéliser et porter la bonne parole. Et donc à un siècle et quelques de recul, on a un retour sur investissement tardif sur la filiale France du Vatican qui Être soutenu par le renfort venu des pays qui ont été évangélisés sans doute en bonne partie par des missionnaires français. On peut convoquer aussi, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, en disant c'est pas la déchristianisation, c'est pas uniquement une histoire de taux de remplissage des églises le dimanche et de nombre de prêtres, c'est toute l'influence du catholicisme jusqu'au cœur des familles françaises. Et donc là, on peut prendre appui sur l'analyse des prénoms. Un prénom très connoté, très marqué culturellement et religieusement comme Marie, était donné à une petite fille sur cinq en 1900. 20% des petites filles s'appelaient Marie, quand elles naissaient cette année-là. C'est une moyenne nationale. Ici, en Ile-de-France, où le processus de déchristianisation avait déjà débuté, on est à peine à 10% de Marie parmi les nouveaux-nés, alors que dans des départements très catholiques comme les Vosges ou le Finistère, à l'époque, c'est une petite fille sur deux qui va s'appeler Marie quand elle naît dans ces années-là. Quand on fait la courbe des Maries, en proportion de petites filles qui s'appellent Marie parmi les naissances, on tombe aujourd'hui à 0,3%. Donc vous voyez aussi que c'est l'influence même de cette matrice catholique dans le cœur des familles françaises qui a beaucoup décliné. Il y a eu une étape intermédiaire, la courbe n'est pas linéaire, ça se fait par paliers, et on voit concomitamment que à la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50, il y a un autre phénomène qui se déploie, qui est une certaine mode pour les prénoms composés à partir du prénom Marie. Anne-Marie, Marie-Christine, Marie-France, il y en a peut-être certaines dans cette salle. Ça dure une quinzaine d'années, puis cette courbe rejoint la courbe des Maries. Et donc on peut dire que là on a une trace d'un sas de transition, c'est-à-dire qu'on a déjà un pied dehors, on continue d'appeler sa fille Marie, mais on rajoute quelque chose pour un petit peu customiser le prénom, et donc ça dure une quinzaine d'années pour sortir définitivement. Sur ce déclin du catholicisme comme force sociale et culturelle, eh bien, un autre exemple est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors il ne faut pas être trop présomptueux, mais on peut penser que la mobilisation de la Manif pour tous contre le projet de loi de PMA, qui a mis un certain nombre de personnes dans la rue dimanche dernier, va connaître encore un certain nombre de épisode et que ça va être en capacité de mobiliser des effectifs non négligeables, mais on est déjà sur des volumes qui sont plus faibles qu'en 2012-2013 contre la loi Taubira, et que c'était à peu près la même France qui s'était mobilisée en 1984 contre la réforme de ce que eux appelaient l'école libre et que d'autres appelaient l'école privée, et on peut que constater qu'à l'époque cette mobilisation s'était traduite ou s'était terminée par une victoire politique. 30 ans plus tard, en 2012-2013, en dépit d'une grosse mobilisation, la force politique et sociale que représente la France catholique n'est plus en capacité de peser significativement sur le cours des choses, et au rythme des évolutions, on peut penser que ce phénomène va se rejouer là de manière encore plus cinglante. On verra tout à l'heure, peut-être dans une autre partie de l'intervention ou du jeu de questions-réponses, quelles sont d'autres conséquences de cette déchristianisation. On en touche du doigt sur la question de la PMA, c'est-à-dire que c'est pas non seulement, encore une fois, la dimension strictement religieuse, observance des rites, etc., ni la dimension culturelle, le prénom Marie ou toutes les références. C'est aussi une vision du monde, une vision de l'homme, une vision anthropologique, qui est en train de changer parce que cette vision était héritée, qu'on soit catholique ou laïque, de cette histoire de longue durée dans laquelle la culture judéo-chrétienne avait formaté beaucoup de choses. Et tout ça est en train de sauter. Pour ce qui est du bloc qui s'opposait, le bloc républicain et laïque, là aussi, il est en crise. Alors ça se voit moins, c'est moins spectaculaire, mais on peut prendre quelques exemples. Au sein de ce bloc républicain et laïque, en gros ce bloc de gauche, depuis les années 30 jusqu'à au début ou à la fin des années 70, au début des années 80, le cœur battant de tout cela, ou en tout cas ce qui constituait l'armature la plus solide, c'était la culture communiste et la contre-société communiste qui s'était créée. On rappelle qu'à la fin des années, jusqu'à la fin des années 70, le vote pour le PC, c'est entre 20 et 25% des voix en France, donc c'est tout à fait substantiel, avec comme brique élémentaire de cette contre-société les fameuses mairies communistes, les mairies rouges, qui, ici en Ile-de-France, contrôlait le parti à la fin des années 70 au municipal, contrôle encore 130, enfin encore, contrôle à l'époque 130 mairies, avec les logements sociaux qui vont avec, les emplois municipaux, les réunions de quartier, les colonies de vacances, etc., etc. Donc il y a toute une contre-culture qui tient et qui donne une cohérence, une cohésion à toute une partie de la société française. Aujourd'hui, les communistes n'ont pas disparu, mais c'est une vingtaine de mairies, qui sont 25 mairies, qui sont dirigées, contrôlées encore en Ile-de-France. Et aux dernières élections européennes, quand le PC a décidé de ne plus être sous le parapluie mélenchoniste, quand ils sont partis sous leur propre couleur, ils ont fait 2,5% des voix. Donc on voit là aussi qu'ils sont partis de quasi 20% à la fin des années 70 à 2,5%. Alors, vous voyez que quelqu'un qui aurait travaillé à l'IFOP, qui travaillait à l'IFOP dans les années 60, avait la tâche plus facile que nous. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais sur un échantillon de 1000 personnes, on avait 350 individus qui allaient à la messe tous les dimanches et 250 communistes. Donc en général, c'était pas les mêmes. Et, donc on avait 600 individus dans mon échantillon de 1000 qui étaient déjà affectés dans deux cases. Aujourd'hui, j'ai 50 catholiques pratiquants et 25 communistes, donc j'ai 925 individus sur 1000 à réaffecter dans d'autres cases. Donc ça donne une illustration assez claire de ce processus de fragmentation. Et encore une fois, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est la vitesse d'évolution, puisqu'on parle d'une société qui était encore en exercice, encore valide ou encore en situation de réalité à la fin des années 70 ou au début des années 80. Donc une espèce de 40 ans maximum, les choses ont, et les processus décrits se sont emballés et ont pris une tournure tout à fait spectaculaire.
Alors, quelles sont, selon vous, les grandes fractures qui traversent la société française ?
Alors, il y en a de multiples, hein, puisque, encore une fois, la société française n'a jamais été historiquement une et indivisible et complètement homogène, mais ces deux blocs permettaient d'agréger des milieux sociaux, des cultures régionales qui étaient très différentes. Quand un historien qui s'appelle Dupeux travaille par exemple sur le vote pour le Front Populaire en 1936, il essaie de comprendre quelle est la carte de ce vote, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc il regarde si ça correspond à la carte de la présence ouvrière. Ça ne marche pas, il y a de très nombreuses divergences entre les deux cartes. Présence des agriculteurs, des paysans qui étaient très nombreux à l'époque. Et la carte qui fonctionne le mieux, c'est la carte en décalque, si vous voulez, en négatif au sens photographique du terme, c'est la carte de la pratique religieuse. Et donc ces deux blocs, eh bien, par exemple si on prend le bloc de gauche, votaient pour le Front Populaire, les ouvriers du Pas-de-Calais, communistes, les petits vignerons SFIO du Midi Rouge, et puis des fonctionnaires radicaux socialistes, par exemple de la région parisienne. Culturellement, sociologiquement, il n'y avait pas grand-chose en commun, si ce n'est l'attachement à la République et à la laïcité contre le bloc d'en face. Ces forces d'agrégation ayant disparu, donc on a des lignes de fracture qui se sont ravivées, d'autres qui se sont créées. Alors on va en détailler quelques-unes. On peut s'appuyer notamment sur les travaux de Christophe Guillouis sur la fameuse fracture entre la France périphérique et la France des métropoles. Donc je pense que c'est une analyse qui est tout à fait pertinente. Et on voit par exemple que dans cette crise des Gilets jaunes, cette thèse a été grandement validée. Si par exemple Bordeaux a été l'épicentre en province de la crise des Gilets jaunes, c'est parce que le phénomène de métropolisation qui touche toutes les grandes villes s'est déployé de manière plus tardive à Bordeaux qu'ailleurs, mais que l'effet de rattrapage a été extrêmement violent. En l'espace de 25 ans, le prix de l'immobilier a considérablement augmenté. C'est pas une explosion qui s'est produite à Bordeaux, avec comme phénomène corollaire le fait que tous les artisans, entre guillemets, ou les soutiers de la réussite bordelaise, les aides-soignantes du CHU, les employés de l'hôtellerie-restauration, parce que dans tout phénomène de métropolisation, il y a en général une dimension touristique qui est très importante, les ouvriers du bâtiment, puisque Bordeaux est un gigantesque chantier, on y construit beaucoup, eh bien, toutes ces populations ont été catapultées, vu le prix de l'immobilier, si elles veulent accéder à la propriété, à 30, 40, puis 50 km de Bordeaux. C'est donc pas un hasard si le premier péage autoroutier qui a été pris d'assaut pendant la crise des Gilets jaunes, c'est le péage de Virsac, au nord de Bordeaux, qui contrôle donc tout le nord Gironde, et chaque jour, par ce robinet, passent 30 000 véhicules qui vont travailler sur Bordeaux et qui payent à Vinci ou je ne sais qui la redevance qui convient. Donc cette fracture centre-périphérie entre métropole et France périphérique est absolument centrale. Maintenant, je pense qu'il faut aller un cran plus loin que l'analyse de Guy Louis, ce qu'il reconnaît, qu'il fait dans ses ouvrages ultérieurs, en disant que au sein même des métropoles, on a des lignes de clivage qui sont très marquées entre le quartier où nous sommes cet après-midi et bon nombre de communes de la Seine-Saint-Denis. Il y a un monde tout abyssal sur de nombreux points de vue. Et de la même manière, dire il y a les métropoles en France et puis tout le reste est la périphérie, il faut regarder les choses d'un peu plus près. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui, bien qu'étant périphériques, s'en sortent bien parce qu'il y a une économie, une résistance économique, un dynamisme économique endogène. Je pense notamment à la région vendéenne ou partie du Maine-et-Loire où on a un taux de chômage qui est très bas, un tissu de PME qui est très actif. Et puis on a d'autres territoires dits périphériques qui eux aussi s'en sortent bien, soit parce qu'ils bénéficient de la manne touristique, ce sont la plupart des littoraux français, ou d'autres points plus marginaux mais qui pèsent économiquement très, très lourd. Par exemple, regardez dans les massifs montagneux toutes les stations de ski, il n'y a qu'à regarder donc, le prix du mètre carré ou les votes en fonction de l'altitude, c'est assez saisissant. Et on peut prendre d'autres exemples, un certain nombre de régions de vignobles, alors pas toutes, mais bénéficient d'une rente et d'une capacité exportatrice tout à fait substantielle, et donc ne sont pas, de mon point de vue, à classer du côté des perdants de la globalisation. À côté de cette fracture donc territoriale ou géographique, qui donc, vous voyez, peut se décliner à de multiples échelles. Pareil, si on prend le cas de la Bretagne, qui est plutôt périphérique, mais qui a assez bien voté pour Emmanuel Macron et assez peu pour le Rassemblement National. Quand vous regardez dans le détail, on a la Bretagne des côtes et la Bretagne de l'intérieur. Et donc, il faut, encore une fois, analyser les choses à de multiples échelles. On a une autre ligne de clivage qui, de mon point de vue, va s'affirmer de plus en plus. C'est le rapport à la nation, avec une partie de la population la plus éduquée et la plus à l'aise dans la mondialisation qui, on peut le dire comme ça, a développé un référentiel qu'on pourrait qualifier de post-national. Quand vous regardez aujourd'hui, et c'est heureux, tous les cursus d'école de management ou d'ingénieur comprennent une année de césure à l'étranger. Et donc on a une ouverture sur l'international croissante dans ces milieux-là, via les jeunes, mais donc les parents aussi séjournent à l'étranger, vont y faire du tourisme, certains s'y sont expatriés ou autres. Et en face, toute une partie de la population pour qui le référentiel demeure essentiellement national, voire départemental. Encore une fois, si on revient à la crise des Gilets jaunes, on a vu des drapeaux français sur les ronds-points, mais aussi beaucoup de drapeaux régionaux. Alors, drapeaux bretons, il y en a tout le temps, même sur un PSGOM, mais les drapeaux du Berry, de la Flandre, etc. Et beaucoup de ces gilets jaunes avaient écrit au marqueur noir sur le dossard de leur gilet le numéro de plaque minéralogique de leur département. Et ils se reconnaissaient comme ça dans les cortèges. Je suis du 60, je suis du 4, du 45, je suis du 8-2 ou du 7-0. Et donc, on voit bien que cette population donc, est sur un référentiel qui demeure tout à fait local ou national. C'est pas un hasard si, à côté du fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, ces gilets jaunes ont porté la revendication de taxer le kérosène des avions au même titre que le gasoil qu'ils mettent dans leurs véhicules pour aller travailler tous les jours. C'est-à-dire, entre guillemets, les bobos ou les gens des métropoles nous donnent mauvaise conscience, mais ils font le tour de la planète plusieurs fois par an, et donc il faut commencer à taxer ça. Et donc on en est bien sur un rapport à la globalisation et au référentiel. Quand le public des ronds-points a vu arriver Nicolas Sarkozy puis François Hollande à l'Élysée, ce public-là savait bien que ces personnes ne faisaient pas partie de leur monde. Mais quand quelques semaines ou mois après leur élection, ils voyaient ces mêmes présidents annonner péniblement quelques phrases en anglais à la télé au soir d'un G20, ils étaient rassurés en se disant « mais en fait, ils sont aussi nuls en anglais que nous, donc ils font partie de la famille ». Cette identification n'est plus possible avec Emmanuel Macron, qui est fluent in English, et c'est tout à son honneur. Mais donc c'est une boutade, mais qui en dit quand même très long sur ce degré de découplage qui s'opère. Et vous voyez que c'est beaucoup plus profond qu'un effet de richesse. Un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart, qui a travaillé sur l'analyse du Brexit, a écrit un livre, et l'une de ses thèses, c'est qu'il y a une opposition très forte, une polarisation, entre ce qu'il appelle les « people from somewhere » et les « people from anywhere », ceux qui sont quelque part et ceux qui sont de nulle part ou de partout. Alors, il prend soin, ce que je fais aussi, de dire que c'est une polarisation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui ne sont ni dans un pôle ni dans l'autre. Il y a 50 nuances entre les deux, mais ce sont deux pôles qui sont de plus en plus actifs. Quand, comme dans les polars, il faut toujours suivre l'argent, quand vous regardez comment les candidats qui se présentent aux élections maintenant font campagne, en tout cas pré-campagne, pour lever des fonds. Par exemple, les candidats de droite, avant la primaire de la droite, sont allés à Genève, à Bruxelles, à Londres, à New York. Emmanuel Macron est allé 6 fois à Londres parce que la big money, comme on dit, française, est pour beaucoup aujourd'hui à l'étranger. La Commission nationale des comptes publics sur les comptes de campagne a publié des chiffres qui montraient que les dons qui sont arrivés sur le compte de campagne d'Emmanuel Macron en provenance de Londres représentaient l'équivalent de tous les dons qui avaient été levés en province en France pour le même candidat. Hein, donc vous voyez bien qu'il y a un phénomène de découplage et toute une partie de l'élite économique et culturelle française aujourd'hui a déjà un pied dehors alors que le reste de la population continue d'être sur un référentiel qui est purement national, voire infranational. Ça permet d'arriver donc du coup à une troisième ligne de fracture. Donc là on pourrait s'appuyer sur les travaux d'Emmanuel Todd sur fracture éducative. Avec des effets tout à fait louables et salutaires de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur sur les mêmes années, une cinquantaine d'années, mais qui aboutit, pour reprendre sa terminologie, à une nouvelle stratification éducative de la société, avec 25% de la population diplômée du supérieur, à peu près 50% sur un étage intermédiaire, et puis une vingtaine de pourcents en dessous de ce niveau de diplôme. Et donc cette nouvelle configuration est aujourd'hui de plus en plus pesante sur les représentations où, quand nous on travaille par exemple à l'IFOP, tous nos sondages sur de la consommation, des opinions et a fortiori sur le vote sont beaucoup plus aujourd'hui indexés et corrélés au niveau de diplôme qu'à la catégorie socio-professionnelle des individus. C'est aujourd'hui ce niveau de diplôme, le niveau éducatif, est une donnée absolument centrale pour comprendre le positionnement politique, mais aussi le rapport au monde des individus. Et puis, donc, on pourrait multiplier les exemples, mais dernière ligne de clivage, parce qu'on est un vieux pays politique, les affrontements idéologiques demeurent, même s'ils sont moins structurés autour de partis et de familles politiques, de courants de pensée, mais encore une fois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle et puis surtout, de manière plus spectaculaire, au moment de la crise des Gilets jaunes, beaucoup ont voulu voir dans tout cela un affrontement, un nouveau retour de la lutte des classes. Alors, par certains côtés, c'était vrai, mais un affrontement entre ce que certains appellent un bloc bourgeois et de l'autre côté, un bloc populaire. Ça, la saveur du marxisme, c'est carré, ça parle, c'est puissant, sauf que ça fonctionne pas à l'analyse. Marine Le Pen a passé tout son temps dans l'entre-deux-tours de la présidentielle à parler à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Quand on regarde les chiffres, il n'y a quasi pas eu de transfert, 1 ou 2 points, sur son nom en provenance de l'électorat de Mélenchon au deuxième tour. En revanche, beaucoup de gens qui avaient voté à droite ont voté. C'est eux qui ont fait la progression de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours. Et de la même manière, certains se sont dit, ça y est, les extrêmes se rejoignent et la fusion est en train de se produire sur les ronds-points. On voit que c'est totalement chimérique et illusoire. Il y a encore, y compris dans ce que certains appellent le bloc populaire, ce d'autres appellent la France d'en bas, dans cette France populaire et moyenne, des lignes de clivage idéologique qui sont très fortes, notamment sur la question du rapport à l'immigration, qui constitue une rupture très importante.
Alors justement, à propos de l'immigration, cette immigration qui est devenue beaucoup plus visible dans la société française depuis une quarantaine d'années, quel rôle elle joue, quelles sont les conséquences de cette présence de plus en plus marquée de l'immigration dans la société française, selon vous ?
Alors, il y a le rôle qu'elle joue, et il y a aussi le poids qu'elle pèse. Vous voyez que dans ce qu'on a évoqué précédemment, et je l'ai fait en raccourci, mais la société française, de manière intrinsèque et endogène, s'est fragmentée elle-même et toute seule au cours des 40 ou 50 dernières années, sans apport extérieur, si je puis dire. Et donc on avait déjà une fragmentation, un archipel français. Mais pour que l'archipel soit tout à fait complet et qu'il soit un peu plus dispersé et diversifié, un autre facteur s'y est agrégé, qui s'est déployé dans la même période, qui est celui de l'immigration. Là aussi, pour en prendre la mesure, on peut convoquer une nouvelle fois les prénoms. Donc on a, sur la base de données brutes de l'INSEE, hein, qui recense tous les prénoms, on a établi une catégorisation selon les origines des prénoms. Donc on verrait dans le livre, il y a des prénoms corses, des prénoms bretons qui connaissent un certain succès dans ces régions respectives. On a aussi un engouement très fort pour, dans les milieux populaires, pour les prénoms anglo-saxons, qui est un phénomène aussi tout à fait symptomatique de ce phénomène de découplage des milieux populaires qui adoptent des prénoms qu'ils se sont entre guillemets eux-mêmes fabriqués avec ce qu'ils avaient sous la main, sans plus reprendre les codes et les modes qui viennent d'en haut. Et puis on a des prénoms qu'on a catégorisés dans la catégorie des prénoms arabo-musulmans. Et donc on a regardé ce que ces prénoms pesaient en termes de naissance en France sur la longue période, hein, sachant que le fichier de l'INSEE, je dis qu'il remonte à 1900, mais il a été expurgé des départements algériens, donc on est sur la métropole plus les dom-toms. Si on est uniquement sur la métropole, les prénoms arabo-musulmans, on en a zéro trace de 1900 à 1950, pas de naissance qui porte ces prénoms. On trouve une première progression à 1% des naissances en 1960, et aujourd'hui on a 19% des naissances en France qui portent ces prénoms. La dernière année qu'on a traitée, c'est 2016, je crois. Là encore, hein, c'est une moyenne nationale, 19%. Alors, précision, c'est 19% des naissances, c'est pas 19% de la population. Hein. Il y a les pyramides des âges qui pèsent, avec des générations âgées qui pèsent beaucoup, mais c'est, du coup, comme la démographie, c'est l'avenir, c'est 19%, donc 20% de la France de demain. Avec ces chiffres-là, ce chiffre-là, on peut raconter ce qu'on veut, mais on est de facto aujourd'hui dans une société qui est multiculturelle. 20% des naissances, c'est clairement une société multiculturelle. Cette entrée dans l'ère multiculturelle s'est faite de manière extrêmement rapide. Hein, là aussi, c'est assez saisissant. On passe de 1% en 1960 à 20% en 2020 ou en 2016. Mais elle n'a pas connu la même vitesse de déploiement sur tout le territoire. Si vous prenez tous les départements, la majorité des départements de l'ouest ou du sud-ouest du pays, nous sommes encore à des taux de 2, 3, 4, 5% maximum des naissances qui donnent lieu au choix d'un prénom arabo-musulman. Donc ces territoires-là sont encore démographiquement dans la situation que la France a connue globalement au début des années 80. Alors que ici en Île-de-France et dans tous les départements très urbanisés, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, le Nord, on est déjà au-dessus de 25%, avec dans certains départements des taux de 30-35%, et le record étant en Seine-Saint-Denis à plus de 40% des naissances. Donc ce rythme ne se fait pas à la même vitesse, et donc ça crée des écarts très importants. Autre précision, ces prénoms, 19%, donc le chiffre est assez spectaculaire, mais il ne faut pas le considérer comme étant d'un bloc et totalement homogène. Quand on analyse la variété des prénoms qui sont regroupés dans cette catégorie, on est dans l'archipel de l'archipel. C'est-à-dire qu'il y a des prénoms maghrébins, très nombreux. Au sein de ces prénoms maghrébins, on a des prénoms kabyles et des prénoms non kabyles. On a des prénoms turcs, mais au sein de cette planète, on a prénoms kurdes et prénoms turcs. L'actualité immédiate nous rappelle qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et puis, on a des prénoms qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et des pays, plus particulièrement des pays où l'islam est pratiqué. Donc c'est une source de diversité supplémentaire dans un univers qui s'était déjà considérablement fragmenté. Donc quel rôle et quelles conséquences ? Eh bien, accentuation de la diversité et de la fragmentation, et également un effet une réaction qui est de rejet, qui existe dans toute une partie de la société française, puisque en gros, l'essor et la visibilité accrue de la population issue de l'immigration s'est traduite par le décollage et puis l'installation non démentie depuis 30 ans, 35 ans, du Front National dans la vie politique française. On a un chapitre dans le livre, on s'arrête sur l'année 1983, c'est pas pour rien, et on essaie de montrer que c'est cette année-là que s'est cristallisée dans l'opinion publique l'idée que l'immigration était bel et bien présente et que, contrairement à ce qui avait été pensé et raconté, cette immigration n'avait pas vocation à être de passage et à repartir dans son pays, mais avait fait souche. 83, c'est l'année de la marche des beurs, c'est l'année aussi des grandes grèves dans l'automobile, c'est l'année d'un certain nombre de faits divers très marquants. Premier jeune d'origine, enfin même enfant d'origine maghrébine, est abattu en Seine-Saint-Denis par un voisin qui était exaspéré par le bruit. On a d'autres événements de ce type qui se condensent la même année et qui donnent à voir cette immigration comme étant en train de s'installer et de prendre racine en France. 83, c'est aussi les premières élections partielles de Dreux et d'Aulnay-sous-Bois, où le Front National fait une percée. Et l'année d'après, en 1984, on a le premier score, quasi à deux chiffres, 10% je crois, de Jean-Marie Le Pen aux élections européennes. À l'époque, on n'a pas le recul historique, on se dit peut-être on sera sur un feu de paille type poujadisme dans les années 50. Bon, on a maintenant, c'est l'avantage, le recul historique, et on s'aperçoit que c'était tout sauf un feu de paille, et que quand après, on regarde après année la corrélation statistique qui existe entre cette présence immigrée et le vote Front National, elle est assez, assez nette. Alors, la statistique étant, comme disait l'Israélie, le plus sophistiqué des mensonges, selon les cartes qu'on fait, on peut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Vous verrez dans le livre qu'il y en a une qui est assez évidente. Hein. Alors avec parfois des effets un peu contre-intuitifs, mais et on voit dans nos sondages que le cœur nucléaire du vote pour le Front National, le ressort premier, demeure le rejet de l'immigration. Il y a bien évidemment le ressentiment contre les élites, contre l'Europe, le déclassement social, mais au bout du bout, ce qui compte, c'est le ressenti vis-à-vis de l'immigration. Et on retombe sur nos fractures. C'est-à-dire que deux individus, notamment en voie de déclassement dans des régions économiquement peu dynamiques, ce qui fait qu'un vote pour la France insoumise et l'autre pour le Rassemblement national, c'est le rapport à l'immigration qui demeure absolument décisif.
Dans votre livre, vous évoquez tout un ensemble aussi de pratiques, d'opinions sur les questions sociétales. Est-ce qu'on a, une fracture générationnelle sur ces évolutions sociétales, ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres ? Est-ce qu'il y a quand même aussi parmi ces fractures une dimension générationnelle ?
Alors, oui, effectivement, on n'en a pas parlé jusqu'à assez peu parlé jusqu'à présent. On a effectivement, on a touché deux mots tout à l'heure quand on parlait du phénomène de déchristianisation et de sortie de cette matrice religieuse. Cette matrice religieuse fait encore de la résistance dans les générations les plus âgées du baby-boom qui, catholiques ou laïcs, ont été, formatés, éduqués et ont grandi dans une société qui baignait dans ce référentiel-là. Les générations qui les suivent, au rythme des évolutions de la législation, mais aussi des évolutions socioculturelles, sont sur toute une série de sujets assez lourds, je parlais de données anthropologiques, sur un référentiel qui est très différent. On peut prendre quelques exemples. Si, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la PMA, quand on interroge les Français, 65% sont favorables à l'extension de la PMA. Alors c'est un sondeur qui vous parle, il faut toujours vous méfier des libellés, des questions de sondage, puisque là c'est avec un libellé qui est très positif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes favorable à ce que toutes les femmes puissent avoir accès à la PMA ? On a un vieux pays égalitaire, mais s'il y en a qui ont droit, pourquoi pas les autres. Donc, voilà. Quand on essaie d'introduire un peu de contradiction, en disant, bon, sachant que quand même, les enfants qui vont naître dans une telle configuration, une mère seule ou un couple de femmes, les enfants mécaniquement n'auront pas de père. Quel est votre avis sur la PMA ? Donc là, les choses se rééquilibrent. On est à 50-50. Mais quand vous regardez comment ce 50-50 se décline par tranche d'âge, 2/3 des 65 ans et plus sont opposés, quand 2/3 des moins de 35 ans, ils sont favorables. Donc sur des données, encore une fois, anthropologiques, c'est quoi la procréation, c'est quoi un couple, c'est quoi une structure familiale, vous voyez qu'on a un monde qui sépare ces populations. Sur d'autres aspects, on travaille aussi sur le rapport des Français à leur corps, une pratique comme le tatouage. Aujourd'hui, c'est 18% de la population française qui est tatouée. Donc là, 18%. 18. Parmi les 65 ans et plus, c'est 1%. Donc, si on n'a pas fait son service dans la marine, ou si on n'exerçait pas un certain nombre de professions particulières, il n'y a quasiment aucune chance statistique pour que vous soyez tatoué. Sur les moins de 35 ans, on est à 30% de la population qui est tatouée. Hein, donc là aussi, vous voyez la vitesse avec laquelle les choses ont changé. Alors, c'est pas grave d'être tatoué, hein, mais c'est pour montrer, sur le rapport au corps, des choses qui, encore une fois, n'allaient pas du tout de soi il y a quelques, enfin, il y a 20, 30, 40 ans, qui aujourd'hui ne sont pas majoritaires, mais sont totalement banalisées. On a 4000 artisans tatoueurs en France, ils ont un syndicat professionnel, qui font du lobbying auprès des élus, des députés, pour pouvoir se constituer en ordre, comme les professions médicales ou autres. Donc on a l'institutionnalisation du tatouage, et donc là aussi, on est sur une rupture voilà, anthropologique dans le rapport au corps qui est très profonde. Dernier exemple, là aussi, hérité de notre culture et de notre référentiel judéo-chrétien, la distinction, la hiérarchie très claire entre l'homme et l'animal. Communiste, laïque ou catholique, on s'entendait sur le fait qu'il y avait l'animal et il y avait l'homme, et que les plus catholiques disaient c'est une créature de Dieu, donc il faut la respecter, mais elle a été créée pour être au service de l'homme. Vous avez le développement d'un courant animaliste, hein, qui sans publicité fait 2% des voix aux élections européennes. On a dit tout à l'heure que le PC a fait 2,5. Hein, donc vous voyez la vitesse et comment les référentiels bougent. Et quand vous regardez dans un pays comme la France, qui est quand même un pays de vieille tradition gastronomique, aujourd'hui, on fait des sondages pour un certain nombre de ces associations pour interdire le gavage des oies, pour le foie gras, pour donc la corrida, c'est plus ancien, mais sur toute une série de pratiques. Donc aujourd'hui, on a une majorité de gens qui sont plutôt favorables à leur interdiction. Et ces opinions favorables sont d'autant plus répandues que les gens sont jeunes. Alors que les générations les plus âgées disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça a toujours marché comme ça. Et pourquoi il faudrait qu'on se mette à légiférer sur la question ?» Donc vous voyez que sur des sujets, encore une fois, qui peuvent paraître anodins, mais qui n'étaient absolument pas l'objet de débat, aujourd'hui, tout ça est remis en cause et remis en question. C'est-à-dire que c'est tout le soubassement judéo-chrétien et toute une certaine série de considérations anthropologiques qui sont aujourd'hui en train d'être bousculées, et on n'en prend pas encore pleinement la mesure parce que cohabitent dans notre société des générations nombreuses issues du baby-boom et des générations moins nombreuses qui sont sur cet autre référentiel, mais au rythme et au gré du renouvellement générationnel. Le mouvement de bascule sur tous ces sujets-là va être assez rapide et assez spectaculaire. Et donc, on est encore en phase de transition, mais la transition est bien enclenchée, et tout ça nous laisse à penser qu'on a changé de monde et changé d'époque au cours des 40 ou 50 dernières années. Donc voilà un petit peu ce qui est raconté dans le livre. Il y a aussi toute une partie plus politique et électorale, parce que c'est ma casquette initiale. Et en fait, la thèse qu'on défend, c'est ce qui s'est passé en 2017. Alors, il y a bien évidemment des aspects contingents, les problèmes de costume de M. Fillon, la fin de quinquennat problématique de François Hollande, mais le mouvement de tectonique des plaques était à l'œuvre depuis le début des années 80. On a parlé de l'irruption du Front National en 84. Et quelque part, ce qui s'est passé en 2017, n'est que la mise en conformité du paysage électoral avec la réalité culturelle, économique et sociale du pays. En gros, on a vécu sur l'affrontement gauche-droite comme avec un espèce d'ombre portée par la force des habitudes. On était de gauche, on était de droite. Le poids des appareils politiques, notre système électoral à deux tours, la force des investitures, les bastions électoraux. Sauf que ce soubassement, au bout du bout, c'était l'affrontement de ces deux France, la France catholique versus la France républicaine et laïque. Ce soubassement ayant sauté, la superstructure, comme on dirait, n'avait plus raison d'exister, et donc tout ça a volé en éclats. Alors bien évidemment, souvent dans l'histoire, c'est la rencontre de tendances de longue durée avec un épisode ou un personnage qui accélère, qui catalyse les processus. Mais donc on a eu cette présidentielle, les législatives avec la poursuite de l'effondrement du PS, 2 ans après, les européennes avec l'explosion à peine décollée de la France insoumise, la droite qui avait plutôt bien résisté à la présidentielle législative qui, à son tour, est frappée par la foudre. Et donc on est aujourd'hui dans cette situation d'instabilité, mais qui correspond aussi à une société qui est totalement archipélisée. Et donc ça pose des questions pour la suite, parce qu'il se peut que l'état normal de notre démocratie électorale, ce soit l'instabilité et la fragmentation, et qui n'est pas aujourd'hui en magasin d'idéologie ou de machine politique qui soit en capacité d'agréger suffisamment, si ce n'est qu'en contre. Hein, rappelez-vous le 65% de Emmanuel Macron au soir du deuxième tour en mai 2017, et moins d'un an et demi après, on a 300 000 gilets jaunes sur les ronds-points de France, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le système politique, un peu comme un moteur qui est déréglé, qui est mal calé sur le nombre de temps, eh bien tout ça hoquette et dysfonctionne parce que la réalité sur laquelle il était appuyé sur la longue durée a totalement changé. Donc voilà un petit peu ce qui est défendu comme thèse dans le livre. Donc je suis à votre disposition maintenant si vous avez des demandes de compléments ou de questions. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et de votre attention.
Alors avant de donner la parole à la salle, j'ai quelques questions à vous poser qui émanent d'un certain nombre de personnes. D'abord, la réception de votre livre. Vous avez eu l'occasion de le présenter. Un certain nombre de décideurs, d'hommes politiques, de chefs d'entreprise, je pense, l'ont lu. Comment ils ont réagi par rapport à ça? Est-ce que vous avez le sentiment de leur avoir fait découvrir un certain nombre de réalités qu'ils avaient peut-être du mal à comprendre, enfin à saisir? Ou bien est-ce que ça ne fait que conforter un diagnostic qu'ils avaient déjà auparavant?
Alors, Avant la réception de ce livre, il y a sa genèse. Et donc moi, je travaille à l'IFOP et j'avais été plusieurs fois assez stupéfait ou sidéré par des rencontres que je pouvais avoir avec, dans le cadre de mes activités, des dirigeants politiques ou des responsables associatifs. Alors associatifs, c'est moins le cas, mais d'entreprises qui étaient très surpris des chiffres et des données qu'on leur présentait sur l'état de la société française. Et je me disais, mais bon. Élément rassurant pour l'IFOP, il y a encore une rente pour la suite, parce qu'il y a besoin de nous. Et élément plus inquiétant pour un citoyen, de dire, mais il y a un état de déconnexion qui est quand même assez patent entre le haut de la pyramide et ce qui se passe dans la réalité du pays. Donc du coup, le livre avait un peu cette vocation, c'était de ne pas forcément mettre le pavé dans la mare, mais c'est de donner un diagnostic sans concession pour que ensuite, qui veulent s'en emparent. Donc du coup, effectivement, quand il est sorti, il y a eu pas mal de réactions dans les milieux dont vous parlez qui ont été assez interloqués, assez dérangés. Certains ont dit, bon, en fait, ça confirme en pire ce qu'on pensait. D'autres m'ont dit, bon, peut-être vous exagérez sur tel ou tel aspect. Et puis tout de suite après, la question c'est... mais alors, c'est quoi les solutions, docteur? Et je leur dis, mais moi j'ai fait ma partie du job, donc je m'en tire avec une pirouette, mais plus sérieusement, je pense que le but c'est de poser ce diagnostic et ensuite de s'emparer de ça pour voir comment on peut apporter des solutions. Mais il y avait un état un peu de déstabilisation, le public était un petit peu désemparé. On dit, bon, bah merci pour votre travail, mais on aurait aimé que la conclusion soit plus étoffée avec une liste
des préconisations,
ce que je n'ai pas fait.
Mais néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que ce phénomène d'archipélisation, de fragmentation, si rien n'est fait, va s'accentuer dans les années à venir?
Alors, il est déjà assez développé. C'est pas forcément attendu et que les îles de l'archipel s'éclatent encore davantage. Alors, il y a une autre question sur l'avenir qui m'est souvent posée, c'est est-ce que c'est pas la guerre de tous contre tous là, que vous êtes en train de me décrire, hein, en s'appuyant par exemple sur les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, qui, quand il a quitté Beauvau, a dit « Les Français vivent aujourd'hui côte à côte, j'ai peur que demain ils vivent face à face ». Moi, je n'ai pas appelé le livre « La Yougoslavie française » ou « La libéralisation de la France ». Archipel, il y en a des heureux et des moins riants, mais je pense que ce n'est pas l'avenir le plus plausible, celui de l'affrontement généralisé. Il peut y avoir des tensions très fortes et très vives dans certains territoires, mais plus globalement, je ne privilégie pas cette option parce qu'on est quand même dans une société qui est très hédoniste, très individualiste, et que faire la guerre à tous et surtout à son voisin, c'est très dérangeant, c'est très coûteux, économiquement, mais aussi physiquement, matériellement, et que je pense que du coup, dans une société qui se fragmente et qui se diversifie de plus en plus, la conduite la plus répandue, c'est l'évitement. C'est-à-dire on se met à distance et on évite d'être trop près de ceux dont on pense qu'ils ne nous veulent pas du bien ou qui sont trop différents de nous. On a le contournement de la carte scolaire massif dans les grandes agglomérations. On a le prix de l'immobilier qui trie, entre guillemets, de manière tout à fait mathématique et implacable les populations. Puis on a d'autres stratégies. On a parlé tout à l'heure de la stratégie d'évitement ultime, c'est l'expatriation pour certains. D'autres... L'expatriation, c'est dans le périurbain pour ne plus être à proximité de la cité HLM du coin. Et donc, on revient sur ma question du vote Front National en disant, mais regardez, ce nombre de villages où il n'y a pas un immigré, ça vote à 40% pour le Front National. Et quand vous allez parler avec les gens, ils vous disent, mais justement, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils arrivent. Donc, on a ça. Et du coup, alors, c'est pas forcément très, très glorieux. Mais ce qui nous guette plus, je pense que c'est plus le syndrome du syndic de copropriété que l'affrontement ou que le Liban. Hein, c'est-à-dire, on aura des choses en commun, on paye les charges communes, mais chacun vit dans son appartement, ne se mêle pas de ce que fait le voisin dans le sien, et si on peut éviter de se croiser sur le palier, ce sera très bien. Hein, donc c'est plus ça. Alors, il y a bien évidemment des forces de rappel, il y a encore l'école, il y a une langue commune, il y a une histoire, si elle est transmise. Et puis on a des institutions très fortes. Alors certaines, on n'est pas dans le champ du politique, mais par exemple la sécurité sociale, c'est un filet tout à fait essentiel pour maintenir un degré de cohésion entre les îles de l'archipel. Les retraites, et on voit que ça va être compliqué à réformer parce que là on touche aussi à quelque chose qui constitue encore un ciment. Donc dans un archipel, il y a des ferries, il y a des ponts entre les îles de l'archipel. Souvent, on parle à peu près la même langue d'une île à l'autre, mais chacun vit dans son coin. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les liens se maintiennent et que, autant que faire possible, si on peut réinjecter ici ou là du ciment, ce serait bienvenu.
En même temps, on a le sentiment qu'il y a, par rapport à un certain nombre de phénomènes, je pense aux attentats islamistes, une forme de division, en tout cas de différence dans l'interprétation d'un certain nombre de phénomènes. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, du fait de ces divisions internes, une forme d'affaiblissement par rapport à un certain nombre de menaces, de défis qui nous attendent?
Alors, effectivement, c'est la question de la cohésion nationale qui est posée à terme. Le sous-titre, il n'est pas de moins naissance d'une nation multiple et divisée, c'est l'éditeur. Est-ce qu'une nation divisée, ça existe encore? On peut débattre. Sur la question terroriste, là aussi c'est un bon exemple, je pense. On a vu au pic des attentats en 2015-2016, nous on avait fait des études, que la société française commençait à monter en température. Et on craignait, c'était l'objectif des terroristes, qu'on vire à la guerre civile ou aux affrontements intercommunautaires dans certains quartiers. Ils n'ont quasiment pas eu lieu, alors que la société française a quand même encaissé des attaques extrêmement violentes, tant en termes de bilan humain que de symbolique. Je pense notamment à l'égorgement du prêtre Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, quelques semaines après l'attaque de Nice. On était à un moment de, et on voyait nous dans nos enquêtes que les choses étaient très tendues. Et pour autant, voilà, alors d'aucuns optimistes disent, vous voyez, une résilience de la société française, il y a une maturité de la société française, et d'autres disent, c'est surtout la trouille qui fait que les gens sont restés chez eux. Mais l'édifice a tangué, mais n'a pas vrillé. Quand on regarde ce qui s'est passé là, il y a une semaine, nous on mesurait après chaque attentat l'évaluation que les Français se faisaient de la dangerosité de la menace terroriste. Et on voyait que depuis l'été 2017, où il y avait eu un attentat, un échec d'attentat contre des policiers sur les Champs-Élysées, après qu'un policier pendant la campagne ait été tué sur les Champs-Élysées, à l'époque on a 60% de Français qui estiment la menace très élevée. On est arrivé à 18% de Français qui estimaient la menace très élevée en septembre dernier, après l'affaire de Villeurbanne. Où il y avait un migrant afghan qui avait poignardé des gens, on dit bon, c'est pas du terrorisme. Donc on était à 18%. C'était le score qu'on avait observé en janvier 2015, avant Charlie. Donc comme si inconsciemment, la société française collectivement voulait refermer la page. Tourner la page et refermer la parenthèse en disant bon, tout ça est derrière nous. Et d'aucuns diraient grâce à Dieu, on est passé à travers. Et donc du coup, quand le gouvernement avait une communication, certains diraient lénifiante, on va dire, non polémique et assez apaisée sur les sujets, il n'y avait pas une manipulation forcément, dans la mesure où cette attitude correspondait inconsciemment à ce que la France, collectivement, avait envie d'entendre, c'est-à-dire on est en train de passer à autre chose. Et donc c'est la difficulté dans des systèmes démocratiques, c'est de maintenir la mobilisation. Alors le président parle de vigilance sur le long terme. On voit la même chose au plan géopolitique, hein. Il y a un effet de télescopage assez sidérant, c'est-à-dire qu'au moment où la France a été frappée, de nouveau, les armes parlent en Syrie et on s'interroge sur le sort des djihadistes emprisonnés par les Kurdes, est-ce que Daesh ne va pas remonter au créneau dans les mois qui viennent. Et donc on voit bien que cette société démocratique, hédoniste, individualiste, a du mal à gérer ces défis collectifs. On pourrait prendre un sujet qui n'a rien à voir, qui est celui de l'urgence climatique, et on voit que c'est difficile à mobiliser, à ceci près que peut-être ce discours sur la transition écologique est peut-être la seule matrice que nous ayons en rayonnage qui permette d'agréger des blocs ou des parties ou des îles de l'archipel autour d'un projet commun. Alors à la fois les bobos des grandes métropoles, mais aussi des agriculteurs bio ou une partie de la population des zones périurbaines qui sont plus ou moins contraints et forcés d'être dans un modèle un peu de sobriété ou de décroissance. Et donc il faut regarder ce que va donner cette rhétorique, ce discours écologiste en termes de capacité d'agrégation et de transformation de la société.
Très bien, je crois qu'on va peut-être passer aux questions de la salle. J'imagine qu'il y en a un certain nombre. Monsieur devant.
Bonjour et merci. Une petite question. Vous sembliez effectivement évoquer le fait qu'il y a une forme de résilience qui a été visible après la première série d'attentats. Je me rappelle l'article assez long que Le Monde a publié récemment suite aux événements de la semaine dernière, auxquels se sont surajoutés les attentats à Manchester, à Berlin, etc. Et surtout, ce que disait effectivement cet article, c'était que, en gros, on assiste là à une nouvelle forme d'attaque encore plus perturbante, encore plus déstabilisante que l'étaient effectivement les précédentes, parce que là, c'est au cœur même du système. Vous savez, beaucoup d'observateurs ont parlé du cœur du réacteur. Est-ce que vous pensez que la résilience face à une montée en puissance de multiples attaques et les pointes vont être de faible intensité mais nombreuses, au cœur même du système, comme on le décrit aujourd'hui, n'est pas de nature à pouvoir effectivement aller au-delà de la résilience naturelle et effectivement, pourquoi pas, précipiter des mesures encore plus radicales et donc une exacerbation de part et d'autre, sachant que ce que vous décriviez comme le syndic de copropriété, ça rappelle un peu la libéralisation en d'autres temps, avant l'explosion. Et donc, cette vision de partition qu'évoquait même François Hollande dans son livre, dans le livre,
dans ses interviews, longues interviews.
Voilà. N'est-ce pas ce vers quoi nous allons? Et est-ce que nous ne sommes pas en train de toucher du doigt la fin de la résilience française par rapport à ce type, effectivement, de phénomène?
Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a résilience et, entre guillemets, lâcheté ou aveuglement. Les deux se mélangent. Si on s'en tient aux données sondagières, on vient de réaliser un sondage cette semaine reposant la même question. Donc, je vous dis qu'on était passé de 60% de gens qui estimaient la menace très élevée à 18% en septembre. On est remonté à 30%. Oui, mais vous voyez qu'avec un attentat aussi spectaculaire, on ne remonte qu'à 30% de Français qui l'estiment très élevé. Alors, 50% disent assez élevé. Hein. Je ne dis pas que les gens sont complètement hors sol. Mais du coup, il y a un coup d'arrêt à cette parenthèse qui est en train de se refermer. Mais à 30%, on est très très loin du degré d'acuité à la question qu'il y avait en 2015-2016. Et il a suffi qu'on croie retrouver Dupont-Ligonnès à Glasgow pour que mais on va retrouver autre chose, vous voyez, hein. Donc, un attentat aussi spectaculaire que celui-ci a un effet certain dans l'opinion, mais on ne rebascule pas dans autre chose. Et alors, je ne suis pas conseiller des terroristes, mais attaquer les forces de sécurité, symboliquement, c'est très bien joué parce que ça montre qu'on peut frapper où on veut et ça interroge énormément. Là où vous faites décapsuler la société française, c'est si vous attaquez une école. Oui, non, mais voyez ce que je veux dire. Donc, qui est encore, hélas, des militaires ou des policiers qui se fassent tuer, à mon avis, ne produira pas d'électrochoc dans la société française.
Vous prévoyez que l'école, c'est la prochaine étape.
Qui n'a pas eu lieu encore, mais voilà. Mais donc là, je pense qu'on passerait dans une toute autre. Même s'il n'y a qu'une ou deux victimes, on passe dans un autre. Et donc, on a cette société, mais on voit bien, hein, et là, c'est la première fois, avec la préfecture de police, que depuis longtemps, on revient sur l'environnement du tueur, la mosquée de Gonesse, etc., etc., l'état de les réseaux salafistes et radicalisés. Et donc,
il y a quand même une queue de comète dans la mesure où il y a eu d'autres policiers dont on a vu qu'ils ont été désarmés, dont un capitaine.
Oui, mais non, mais l'idée, c'est pas de dire.
Oui, mais rare, c'est vrai.
Oui, mais je minimise pas ce qu'ils disent. Je dis juste que en termes d'impact dans l'opinion, on le voit, mais on n'est pas revenu à 2015-2016 et la société française n'est pas de nouveau en ébullition sur ces sujets-là. Je pense que collectivement et inconsciemment, on a envie de croire qu'on est sur la queue de comète.
Oui, mais.
Je dis pas que c'est bien, je dis que collectivement, on est plutôt sur cette ligne-là.
Il y avait eu quand même avec les attentats de Monera, des attentats dans l'école. Hein.
Une école. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, on était sur la. Vous avez tout à fait raison. La première attaque. Et terrible à dire, c'était une école juive qui avait été visée. Et donc, dans la société française, à l'époque, des gens avaient dit, bon, entre musulmans ou maghrébins et juifs, on est sur un vieux truc. Voilà. C'est terrible. Hein.
Du reste, il n'y a pas eu une manifestation de masse pour protester.
Et il y avait eu une manifestation après où n'avaient été présents que des membres de la communauté juive.
Ouais.
Contrairement à Carpentras, 20 ans. Ce qui montre aussi l'état de fragmentation très fort.
Autre question.
Une question d'ordre méthodologique. On parle beaucoup de pourcentage, mais assez peu de nombre absolu. Et vous venez de terminer en disant que les gilets jaunes, il n'y en a que 300 000.
Ce qui a été dit, on va dire.
Le premier chiffre absolu. C'est la première question. La deuxième est de savoir si vous n'avez pas de problème avec le secret des origines des interrogés. Aux États-Unis, vous savez qu'un noir catholique a assassiné un latinos. Et en France, on n'a aucune espèce de précision. Est-ce que vous pourriez répondre à la question de savoir combien de musulmans votent Front National?
Oui, on peut. Alors, sur les pourcentages, bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Là, on trouve que c'est les indicateurs qui sont habituellement utilisés. Et c'est ça qu'on suit. Le pourcentage est intéressant, par exemple, sur les pourcentages de naissance, puisque Sinon, il faut tenir compte du nombre de naissances qui peut varier selon les périodes aussi. Donc, pourcentage a des avantages, mais on a aussi des chiffres en valeur absolue qui peuvent être donnés. Alors, la deuxième question que vous posiez, c'était le rapport aux statistiques ethniques, en gros. Moi, je pars du constat qu'à partir du moment où on est dans une société multiculturelle, où il y a notamment des questions de discrimination, où on a aussi des comportements électoraux qui se font en fonction de ces équilibres démographiques, où les comportements individuels sur le choix des écoles, le choix des quartiers, toute une partie de la société française résonne d'ores et déjà dans ce cadre-là. Et donc on peut se dire c'est contraire à notre idéal républicain, etc. Sauf que moi je ne suis pas législateur, et donc si on veut comprendre un certain nombre de phénomènes, il faut regarder cet aspect-là des choses. Je vous donnerai juste un exemple. On avait fait un ouvrage il y a quelques années qui s'appelait « Karine vote à gauche et son voisin vote FN ». Donc on était déjà dans les prénoms. On avait étudié, par exemple, dans 7 villes de France, dont Marseille, les comportements électoraux à l'aune d'une variable qui était la proportion de prénoms arabo-musulmans par bureau de vote. Sur une ville comme Marseille, si vous n'avez pas cette donnée, vous passez à côté d'au moins la moitié du film sur ce qui se passe électoralement à Marseille. Donc pour comprendre les choses, c'est absolument fondamental de disposer de cet outil-là. Pour un autre exemple, on est parfois amené dans des entreprises à faire des enquêtes sur les discriminations, mais la DRH nous dit « oui, il ne faut pas demander l'origine des gens ». Ok, alors on va demander est-ce que vous avez été discriminé, mais on ne sait pas de qui on parle, etc. Enfin, on devient dingue. Donc moi, à titre personnel, je pense que pour comprendre et prendre la mesure des dynamiques qui se passent dans la société française, on ne peut plus se priver de ce type d'indicateur, alors qui est à manier avec précaution. Mais voilà, un article du Monde qui parlait de quartier de banlieue, quartier pavillonnaire à côté d'une cité. Et donc l'article commençait par « ici on compte ». C'est-à-dire combien de familles sont arrivées de l'autre quartier, combien il y en a dans les écoles. Ce que les anglo-saxons, les américains font depuis très longtemps, parce que j'allais dire, c'est le réflexe normal et naturel dans une société multiculturelle. Et donc, il faut adapter, je pense, l'appareillage statistique pour comprendre et rendre compte de ces phénomènes-là. Les phénomènes de ségrégation ou d'évitement scolaire, c'est pas que le taux de réussite au brevet. Il y a bien d'autres choses. Quand vous faites un peu d'enquête de terrain, vous savez très bien de quoi parlent les gens. Donc il faut qu'on regarde ça.
Mais on ne tombe pas sous le coup du Conseil constitutionnel, enfin, pour l'instant, pour qu'il y ait une possibilité légale de faire des statistiques en interrogeant les gens sur leur génétique, je crois que c'est pas...
Alors,
ça pose problème sur le plan de la loi.
Alors, ça pose problème. Alors, ici, ce qui est interdit, c'est de constituer des fichiers nominatifs, ce qu'on n'a pas. Deuxièmement, la loi encadre surtout la statistique publique. Et troisièmement, pour les instituts de sondage, il faut laisser la possibilité aux gens de ne pas répondre.
D'accord.
Donc, okay. On ne force personne. Sur les prénoms, là c'est un fichier où il n'y avait que des prénoms, il n'y a aucun nom. Donc on a travaillé là-dessus.
On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la communauté musulmane. C'est-à-dire que moi je lis beaucoup Causeur, par exemple, et je vois qu'il y a quand même beaucoup de musulmans qui ne sont pas d'accord avec... la religion, même s'ils se sentent culturellement musulmans. Et donc je trouve qu'on manque de réflexion de ce côté-là, de statistiques même, peut-être. Mais...
Alors, je me rends compte que je n'avais pas répondu à la fin de votre question sur, par exemple, la proportion de musulmans qui votent pour le Front National. Alors, vous savez, c'était... Audiard avait une formule en disant les poissons existent, les poissons volants existent, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc, il y a un vote FN dans une partie de la population... mais qui est très très minoritaire. Typiquement, je reviens sur le cas de Marseille, vous vous souvenez des municipales de 2014, quand le Front National a conquis deux arrondissements, 13-14, des quartiers nord de Marseille. Et on a dit, voilà, à cause du... sous l'effet du trafic de drogue et de l'immigration, l'électorat lui-même issu de l'immigration se met à voter pour le Front National. Quand vous regardez les bureaux de vote un par un, avec notre indicateur du taux de prénoms arabo-musulmans, vous vous rendez compte que ce sont les bureaux de vote qui correspondent aux anciens noyaux villageois qui ont massivement voté pour le Front National, et que les bureaux d'à côté qui correspondent beaucoup à des logements verticaux où la population arabo-musulmane est très importante, votent très marginalement pour le Front National. Donc ça existe, mais c'est très restreint et minoritaire. Pour ce qui est de ce qui se passe dans la population musulmane, donc je peux permettre de faire de la publicité corporate pour l'IFOP, on vient de réaliser pour Le Point, il y a un mois, une grande enquête, parce que l'IFOP en a fait plusieurs sur les 30 dernières années, auprès de la population musulmane, la première ayant été lancée en 1989, au moment de la fameuse affaire du foulard de Creil. Et donc on a relancé l'enquête en septembre, à l'occasion du 30e anniversaire de cet événement-là. Donc, ce que dit l'enquête, c'est que cette population, comme toutes les populations, est diverse. Ce que je disais tout à l'heure sur les prénoms, ça n'existe pas les blocs. Il y a une grande diversité dans leur rapport à la religion, dans leur rapport à la société française, c'est très divers. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, un certain nombre de lignes de force se dégagent, qui montrent notamment un regain de religiosité et identitaire dans cette population, par rapport à ce qu'on observait en 1989. Je vous donne juste deux chiffres. L'enquête de 89, on interrogeait les gens en disant « Est-ce que vous allez à la mosquée le vendredi ?» Alors on est sur du déclaratif, on ne va pas voir si c'est vrai, donc il y a des biais, bien évidemment. À l'époque, on est sur 16% de cette population qui déclare aller à la mosquée le vendredi. On a reposé la question à l'identique en septembre, on est à 38%. Alors, 38%, ça veut dire que 62% nous disent non. Donc toute la population d'origine musulmane n'est pas pratiquante. La grande majorité ne l'est pas. Parmi les 38, là aussi, on a des biais. Je pense que les mosquées ne sont pas assez volumineuses pour accueillir près de 40% de la population musulmane le vendredi. Néanmoins, les biais étaient déjà là en 89, et vous voyez que le score a doublé sur la période. À l'époque de l'affaire du foulard de Creil, certains, enfin beaucoup, qui avaient lu Marcel Gaucher et d'autres, mais pas câblé Gaucher, c'est pas le sujet, ils disaient, bon, il y a un phénomène de sortie de sécularisation générale qui a touché la société française, et les familles qui viennent de l'immigration, qui nous ont rejoints plus récemment, vont prendre le temps qu'il faudra, mais elles vont fatalement, par mimétisme et contagion, connaître le même phénomène. Dans la bouche de SOS Racisme, ça donnait, vous inquiétez pas, le blue jean finira par l'emporter sur le tchador. Parce qu'on était en 89, la révolution iranienne n'était pas si lointaine que ça, et donc à l'époque on parlait de tchador, on parlait pas de voile. Bon, on est 30 ans après, on voit que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, et que le phénomène général de sécularisation existe dans une partie de cette population, mais qu'on a toute une autre partie de cette population qui est plutôt sur un, notamment dans les jeunes générations, sur un retour religieux identitaire. Et donc c'est ça qui trouble énormément la société française, d'une part parce que c'est une religion qui est encore très méconnue de nos concitoyens, et d'autre part, c'est le fait religieux même qui est de plus en plus étranger à nos concitoyens, en disant mais nous, ça fait très longtemps qu'on n'est plus là-dedans, et eux, notamment les plus jeunes, ils sont de plus en plus. Donc c'est ça qui crée la distorsion. Mais l'idée aussi à retenir, première, c'est qu'il y a une grande diversité de points de vue. J'en profite aussi pour parler de ces prénoms. Recevoir Marie comme prénom n'impliquait pas que vous soyez une fervente catholique tout au long de votre vie. Et donc, recevoir des prénoms arabo-musulmans ne fait pas de vous non plus un fervent musulman, ni quelqu'un au patriotisme douteux. Comme le policier qui est mort devant Charlie Hebdo, il s'appelle Ahmed Merabet. Les trois premières victimes de Mera avant l'école juive, c'est des parachutistes d'origine maghrébine, parachutistes français. Et 10% des soldats français qui sont tombés en Afghanistan contre les talibans portaient ces prénoms. Donc ils ont payé le prix du sang. Donc voilà. Ça dit juste qu'on est sur une société qui est beaucoup plus diverse et que la logique assimilationniste fonctionne moins bien. Dans le livre, comme le fichier de l'INSEE remonte à 1900, on a regardé ce qui s'était passé pour des vagues migratoires précédentes en termes de prénoms. Par exemple, les Polonais dans le Pas-de-Calais au lendemain de la Première Guerre mondiale qui arrivent par centaines de milliers pour travailler dans les mines. Il y avait une loi sur les prénoms qui remontait à Napoléon. Et Napoléon ne s'était pas embêté en disant sont éligibles à l'état civil les prénoms qui sont dans le calendrier. Donc on revenait sur la matrice chrétienne, les cathos, puisque c'est des prénoms de saints. L'appareil d'État fonctionnant bien, partout en France, on appliquait à la lettre cette consigne. Alors, sauf dans le Pas-de-Calais, parce qu'à l'époque, tout le monde, les Polonais comme ceux qui tenaient le stylo, pensaient que ces Polonais, à horizon 10 ou 15 ans, ils repartiraient chez eux. Donc on leur a laissé donner des prénoms polonais à leurs enfants. Et on voit dans le fichier de l'INSEE décoller les prénoms polonais dans le Pas-de-Calais dès 1919. C'est daté au carbone 14, dès qu'ils arrivent. Sauf qu'en 1945, on n'a plus trace de prénoms polonais. En l'espace de 30 ans, une génération, mariage mixte, travail, assimilation. La société française avait des ressorts intrinsèques qui étaient beaucoup plus brutaux et beaucoup plus assimilationnistes que maintenant. Et donc, ça, parce que là, on a la fin du film, on dit, bah voilà, ça n'est pas très compliqué. C'était très compliqué. Vous voyez que les premières générations donnaient des prénoms polonais. Mais très rapidement, ça s'est perdu. Ce carcan assimilationniste, lui aussi, s'est considérablement délité. Et donc, aujourd'hui, les groupes qui nous rejoignent, comme d'autres groupes beaucoup plus anciennement présents en France, aujourd'hui, chaque île plante son drapeau. Et son drapeau, c'est notamment le prénom. Donc on voit par exemple dans la communauté juive un regain de prénoms bibliques ou hébraïques qui avait quasiment disparu il y a une quarantaine d'années. Le prénom Marie ne remonte pas en vigueur, mais dans tout l'ouest parisien, dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine, on a le développement de prénoms qu'on pourrait qualifier catho traditionnels ou catho BCBG, qu'on retrouve dans les reportages consacrés à la manif pour tous. C'est 4 à 5% des naissances féminines, et dans ces départements, c'est 7, 8 ou 10. Chaque groupe, en Corse aujourd'hui, les prénoms corse italiens, donc très sonorité très corsisante, c'est 20% des prénoms, des naissances. Donc chaque groupe aujourd'hui revendique une certaine part d'identité, parce que à la fois la matrice commune et aussi les leviers assimilationnistes qui étaient très violents et très contraignants ont sauté. Sur la population asiatique, il y a un archipel dans l'archipel, entre des populations qui sont arrivées, on va dire, la vague des boat people à fin des années 70, et une immigration asiatique plus récente, qui est chinoise. Donc là, on n'a pas le recul sur la population, l'immigration la plus récente. Sur la plus ancienne, donc là, on ne s'appuie pas sur le fichier de l'INSEE, on était regardé dans le 13e arrondissement de Paris, au hasard, dans une ou deux communes de Seine-et-Marne où la population asiatique est très nombreuse, et on constate que là c'est la liste électorale, donc vous avez nom et prénom, que les électeurs inscrits qui ont des noms à consonance asiatique, dont 50% des cas, ont un prénom français ou européen. Les fichiers électoraux étant bien faits, il y a le lieu de naissance. Donc on peut ensuite trier avec un cran supplémentaire. Ceux qui sont nés dans ces pays ne portent un prénom français ou européen qu'à hauteur de 30%, mais c'est déjà beaucoup. Alors ça veut dire soit que c'était des minorités religieuses chrétiennes, soit des gens qui étaient liés à l'appareil d'État colonial, soit des gens qui ont changé leur prénom en arrivant en France, en disant « si je veux réussir, il faut que je prenne un prénom français ». Parmi ceux qui portent ces noms de famille, mais qui sont nés en France, on est à 70% de porteurs de prénoms français ou européens. Donc vous voyez qu'on a une différence d'attitude tout à fait importante. Il faudra regarder ce qui se passe sur la vague plus récente. Alors, on précise néanmoins que le fichier de l'INSEE, il ne porte que sur le premier prénom. On sait d'expérience que dans ces familles, il y a souvent un deuxième prénom, qui est un prénom qui rattache à l'histoire de la famille, qui est utilisé en famille. Mais à l'état civil ou pour les formalités, on a un prénom européen. Alors c'est intéressant parce que d'autres enquêtes ont montré que porter un prénom maghrébin ou musulman expose le porteur aujourd'hui encore en France à d'importantes discriminations pour trouver un emploi, pour trouver un logement, etc. Pour autant, ces familles dont on peut penser qu'elles ont expérimenté au cours de leur vie ces discriminations optent très massivement pour ces prénoms. Alors que d'autres groupes ethnoculturels font le choix très rapide, et j'allais dire très utilitaire en partie, de prendre des prénoms français ou européens. Donc on voit qu'on a des stratégies qui sont très des pratiques qui sont très différentes selon les groupes.
Alain Besançon, vous vouliez...
Et moi je pensais à ces deux piliers que vous avez mis au début, le pilier catholique et le pilier communiste. Et ces deux piliers occupaient une position symétrique dans la... Bon, c'était tous deux plus ou moins exclus du pouvoir. Et en même temps, c'était des piliers qui se rassemblaient beaucoup par leurs mœurs. Et le point de vue des mœurs est très important. Disons, la partie catholique française était très marquée par le jansénisme et le rigorisme, et le rigorisme n'était pas moins fort dans le parti communiste. Hein. Je pense à la discipline sexuelle, qui était
Jeannette Vermèche,
très importante, et très stricte dans les deux cas. Alors, la décomposition des mœurs, ça existe dans les deux piliers simultanément. Et là, la date est peut-être les années 60. Hein. Là, on sort des mœurs catholiques, on sort des mœurs communistes pour entrer dans un autre système.
Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. Il se joue beaucoup de choses à ces époques-là. Mais le phénomène s'est considérablement accéléré, emballé par la suite. Je reviens aussi dans le livre sur la dialectique qu'il existe entre les évolutions sociétales de fond et puis les changements législatifs. Alors c'est pas législatif, mais pour le premier exemple que je vais vous prendre, mais sur le cas du Concile de Vatican II, la hiérarchie ecclésiastique se dit bah, la société même catholique est en train de bouger, il faut qu'on adapte nos pratiques et nos rites à une demande sociale qui est latente, mais sans quoi on va au devant de graves ennuis. Et ce faisant, quand on vote un assouplissement de ces règles et de ces lois, on amplifie encore le phénomène. Toute chose étant égale par ailleurs, si on veut faire la symétrie avec le communisme, c'est ce qu'a fait Gorbatchev avec la perestroïka, il a dit voilà, le truc est en train d'exploser, donc il faut qu'on libéralise, et ce faisant, il a été emporté. Je prendrai deux autres exemples, législatifs cette fois en France, sur les divorces, parler des mœurs. On a dans le livre la courbe du nombre de divorces qui commence à très sérieusement augmenter dans les années 60, après 68, mais ça avait commencé un peu avant, dans les années 70, et le législateur étant confronté à des divorces de plus en plus nombreux, fait voter la fin du divorce pour faute et le divorce par consentement mutuel. Le vote de cette loi accélère encore la propension au divorce, mais certains très conservateurs disent que c'est depuis là que tout a basculé. La hausse avait commencé bien avant. Dernier exemple, qu'on montre aussi dans le livre, c'est la fameuse étude des prénoms. Donc on a parlé de la loi de Napoléon, qui était une des lois les plus anciennes en vigueur en France. De 1900 à 1945, la France a fonctionné avec un stock de 2000 prénoms différents, garçons-filles. Et Jacques Dupaquier, qui avait travaillé sur le 19e siècle, parce que le fichier de l'INSEE remonte pas avant, montrait que c'était à peu près le même stock de prénoms. Donc de la Révolution française à 1945, on a 2000 prénoms. Donc ça donne aussi, derrière le communisme et le catholicisme, un autre étage qui montre une couche culturelle commune. On passe à 3000 prénoms différents dans les années 60. En 1966, il y a une circulaire ministérielle pour faciliter l'usage des prénoms régionaux. Et le phénomène s'emballe alors. Pas forcément dans les régions, hein, mais 100 balles, et on est à 6000, 7000, 8000 prénoms différents dans les années 80, début des années 90. Et le législateur, voyant cela, en 93, vote une loi qui donne liberté totale du choix des prénoms. Et donc là, on finit l'année dernière avec 13000 prénoms différents, mais la courbe s'était déjà emballée avant, si vous voulez. Donc il y a une dialectique à chaque fois entre ce que le législateur fait pour essayer d'accompagner, et ce faisant, en général, il accentue un phénomène.
Madame.
Dans ce constat que vous faites sur la chute de la société, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus évoquer ce qui s'est passé en 83, c'est-à-dire un gouvernement qui opte, qui fait le choix, un choix économique pour les thèses ultra-libérales, et un autre choix politique d'une Europe transnationale. Mais est-ce que ces deux choix-là n'ont pas contribué à beaucoup masquer les enjeux et aussi attaquer la démocratie, parce qu'il n'était pas permis de remettre en cause, et notamment par rapport à cette Europe fictive, pourquoi pas une Europe fédérale, à condition que éventuellement une partie de la population puisse discuter sur l'opportunité et l'alternance. Pardon, parce que là, il n'y a pas eu de débat. Et à partir de là, effectivement, il y a des choses très compliquées qui sont en place. Parce qu'on n'a pas voulu effectivement réfléchir sur ce choix-là, mais sur le choix de notre libéralisme aussi.
Vous avez raison, je pense que c'est un élément important à plusieurs titres. D'abord, il faut dire que 83, c'est aussi le tournant de la rigueur, enfin, c'est ce dont vous parlez, et donc c'est un acte majeur dans le phénomène de désagrégation des grandes coalitions électorales, et principalement de la coalition électorale de gauche. On date de ce moment-là, dans les enquêtes du Cevipof ou d'ailleurs, le fait que le vote des ouvriers et des employés devient de moins en moins automatique pour la gauche. Donc là, il y a une cassure très nette qui s'est opérée à ce moment-là. Et donc, dans le schéma initial, les choses ont commencé à se fissurer beaucoup. Et pour ce qui est de la construction européenne et du choix d'aller vers une intégration renforcée, on a une autre date majeure de notre point de vue, c'est 92, le traité de Maastricht, où nous voyons apparaître pour la première fois une carte électorale, France du oui, France du non, qui est en très très grande partie complètement autonome du vieux cadastre électoral français gauche-droite. En disant là, et il y a beaucoup de gens qui votent, donc c'est pas une élection européenne où il y a peu de gens qui votent, là on voit les cartes, moi je me souviens, et on retrouve plus nos petits, en disant il y a des anciennes zones communistes qui votent, enfin des zones communistes qui votent avec des trucs très à droite, c'est très très bizarre. On reverra cette fracture en 2005. Et donc là, on a, ce que je disais tout à l'heure sur la victoire de Macron en 2017, c'est entre 83 et 92, la tectonique des plaques commence à se mettre en branle de manière souterraine. Cet enjeu européen qui devient de plus en plus clivant sur une autre ligne de faille que l'affrontement gauche-droite, il va apparaître que de manière épisodique, mais très violente, 92, 2005, sauf qu'il est là, les fractures sont là, et on est en train de redessiner un nouveau paysage électoral. Alors, et puis dernier point, quand on voit l'état de fragmentation de la société française, on se dit que là, du coup, le projet d'une nation européenne fédérée ou autre est quand même très très utopique, ou en tout cas à penser à très très long terme, puisque des choses qui étaient beaucoup plus constituées se sont délitées très fortement, et donc avant de pouvoir rebâtir tout ça, je pense qu'il va passer pas mal d'eau sous les ponts.
Il y avait monsieur en bleu là-bas.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure, mais assez rapidement, une influence possible du climat sur notre archipel. Alors, pouvez-vous confirmer que depuis quand même quelques années, il y a des tentatives de recyclage, je ne sais pas si c'est le mot, à gauche sur ces thèmes-là, à l'extrême gauche, même au Parti communiste, et pourtant, on n'en voit pas l'impact politique. J'ai même l'impression, alors c'est une impression, je ne suis pas sondeur, j'ai même l'impression que l'admiration présentée par notre président de la République vis-à-vis d'une jeune Suédoise a créé plus de division que de cohérence, qu'un matraquage écologique systématique dans les médias. Et pourtant, je n'ai pas le sentiment que ce soit un effet de cohésion. C'est peut-être même plutôt un autre élément de division.
Si on reprend notre affrontement entre bloc catholique et bloc républicain et laïque, pour que ça s'agrège en bloc, il faut qu'il y ait une opposition. Et donc peut-être que sur cette question écologique, nous avons les prémices d'un nouvel affrontement entre un bloc écologiste et un bloc qui serait climato-sceptique, ou je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, même si on le voit moins bien se dessiner que celui d'en face. Moi, j'ai pas mal réfléchi à ça depuis la sortie de mon livre, parce que la question écologique prend de plus en plus d'importance. Et je me dis, alors sans faire de la provocation, que peut-être que l'écologisme est une nouvelle forme de religion. Alors, attention, je ne parle pas des origines, en disant qu'on peut s'appuyer sur des données scientifiques et autres, mais sur la fonction sociale et sociologique du discours écolo. Il n'y a que les religions qui sont capables de mettre en place ce que les experts appellent scientifiques l'orthopraxie, c'est-à-dire des normes qui sont édictées pour la vie quotidienne. L'écologie fait ça. Il ne faut pas d'huile de palme, il faut manger des fruits de saison, etc. On peut dire quelque part, l'écolo, il fait carême toute l'année. Et donc il y a une force comme ça assez importante. Toutes les références qui sont mobilisées aujourd'hui dans l'imaginaire autour de l'écologie puisent leurs racines dans le référentiel chrétien. La fin du monde, c'est l'apocalypse, les forêts d'Amazonie qui brûlent, c'est le jardin d'Éden qu'on a détruit, etc. Et donc il y a la faute originelle de l'homme, le péché expié collectivement. Même dans le vocabulaire qui est utilisé, un agriculteur qui passe au bio, on dit qu'il est en conversion. conversion bio. Hein. Non, c'est le terme officiel. C'est le terme officiel. Sur les zones protégées, ce sont des sanctuaires de biodiversité. Donc il y a tout un référentiel commun. Donc ça veut dire, bon, le référentiel est commun. Greta Thunberg, on peut dire, quelque part, il y a un côté assez messianique de Jeanne d'Arc ou Bernadette Soubirous. Et plus sérieusement, mais même si je blague à moitié, cette capacité à adopter des comportements dans la vie quotidienne, il n'y a aucune idéologie en régime démocratique qui, à part les religions, qui est capable de faire ça. À la grande époque du PC, on leur disait pas, faut pas manger de steak, ou faut manger ceci, on mangeait ce qui. Coca-Cola. Donc ça a été d'où l'aspect assez religieux qu'a pu avoir le PC à cette époque-là. Et donc moi je m'interroge sur la capacité que peut avoir ce discours à agréger ce que je vous disais tout à l'heure entre les bobos des quartiers parisiens avec aussi beaucoup de publics dans certains territoires ruraux qui sont engagés dans la transition écolo. Je vois pas sinon d'autres discours politiques qui aujourd'hui sont en capacité d'agréger un peu solidement, mais on en est qu'au début de l'histoire, et pour que ça marche vraiment, il faut qu'il y ait un bloc en face, parce que c'est bien quand ça marche, quand c'est une opposition.
Je crois qu'il y avait monsieur juste à côté là, oui, d'abord.
Vous avez produit une analyse très fouillée de la fragmentation française, sans passer la presse à revue, probablement sans précédent. Néanmoins, est-ce que votre analyse ne s'inscrit pas en convergence ou en complément de celle de Christophe Guilly, dont l'ouvrage « Les fractures françaises » est paru en 2013, de celle de Laurent Bouvet, dont l'ouvrage sur l'insécurité culturelle est paru en 2015. Cela étant, je parle du passé, d'un prolongement de la fragmentation française du phénomène qui est étudié. Il s'annonce, et je crois que vous n'avez pas manqué de l'apercevoir, puisque vous avez produit un article dans cet hebdomadaire, dans le point de cette semaine, s'annonce avec un entretien en avant-première, la parution au mois de janvier, d'un ouvrage de M. Bernard Rougier, qui s'appelle « Les territoires islamistes », « Les territoires conquis de l'islamisme », qui vient en référence, en écho à celui paru il y a quelques années, « Des territoires perdus de la République ». D'après l'entretien qui est paru dans le point, on attend avec impatience cet ouvrage, qui semble très documenté aussi et qui semble être assez choc. Quel est votre point de vue, puisque les témoignages se multiplient? Monsieur Rougier dit un peu au passage qu'avec Monsieur Keppel et d'autres spécialistes, malgré ses études et ses ouvrages, il n'avait pas le sentiment d'avoir été très, très entendu, très écouté, des responsables comme des gouvernementaux ou politiques français. Donc pensez-vous que, grâce à votre ouvrage, grâce à cette suite d'ouvrages, il va y avoir quand même, je ne parle pas de la préfecture de police, il y a une prise de conscience, sans excès, sans fantasmagorie, d'une véritable menace insidieuse sur la fragmentation.
Alors il y a plusieurs petites questions à votre question. Il y a tout d'abord, par rapport aux travaux de Christophe Guilly, il y a des similitudes, du reste vous le citez dans votre livre. Est-ce qu'il y a en même temps des points de divergence dans l'approche que vous avez par rapport à la sienne?
Alors, j'ai beaucoup apprécié les travaux, enfin j'apprécie beaucoup les travaux de Christophe Guilly et ça m'a beaucoup apporté quand ses livres sont sortis. Et donc je le cite. Et je m'entends bien avec lui par ailleurs, donc je cite et je m'appuie sur ses travaux, mais ce que je vous disais, je pense qu'il faut c'est d'aller un cran plus loin sur une opposition. Alors, ce qu'il a fait après aussi, intégrer un certain nombre d'autres paramètres qui n'étaient pas son sujet à lui, sur la dislocation de la matrice catholique, etc. Lui s'était concentré sur des sujets, mais il a eu l'extraordinaire mérite de mettre le projecteur sur une réalité qui avait été soit occultée, soit qui passait sous les radars. Et donc moi j'ai toujours soutenu quand c'était le cas, et encore une fois je le répète, pour tous ceux qui critiquent ces analyses, la crise des gilets jaunes, pour moi c'est une illustration assez limpide de ce qu'il a raconté, donc on peut au plan territorial, mais après il y a d'autres choses. Les autres auteurs que vous citez, moi j'ai pas d'antagonisme, et je converge assez avec ce qu'ils font. On avait travaillé à l'IFOP avec l'équipe de Gilles Keppel, et M. Rougier fait partie de cet univers-là. Et donc je pense que voilà, il faut regarder. Notre société a souffert de cécité, hein, sur plein de sujets, par conformisme, par paresse. par confort aussi, en disant faut pas regarder les sujets qui fâchent, bah, sauf que un jour ou l'autre, ils vous explosent au visage, sans jeu de mots. Donc on y est aujourd'hui, et donc modestement, et ça, c'est pas forcément facile hein, de sortir un chiffre en disant que 18% des naissances portent des prénoms musulmans, parce qu'on nous dit vous faites le jeu de un tel, d'ailleurs vous êtes récupéré, etc. etc. Mmh. À un moment, il faut mettre les chiffres sur la table. C'est notre boulot à l'IFOP. Normalement, un journaliste, il éclaire le réel, un sondeur, il doit faire la même chose. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour contribuer à éclairer le débat.
Merci, on va prendre une ou deux dernières questions, parce que le temps passe. Devant, monsieur.
Oui, alors je vais peut-être être un peu désagréable. Je vais parler d'une étude qui vient de sortir, qui est faite par un concurrent.
Ah.
L'étude de l'Ipsos qui vient de sortir pour Le Monde.
Les fractures françaises.
Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Enfin,
les fractures françaises.
Les fractures françaises. Il me semble que ça va dans votre sens, mais j'aimerais justement sur les grandes polarisations en France. On voit, par exemple, je crois qu'il y a 73% des Français qui disent qu'ils ne se situent ni à droite ni à gauche. Il y a un nombre d'éléments comme ça qui sont tout à fait dans notre sens. Mais si vous l'avez vu, est-ce que vous pouvez apporter un commentaire à cette étude qui vient de sortir ?
Nos confrères font des trucs très intéressants, donc j'ai pas de soucis, ils sont même repris dans des grands journaux, donc vous voyez. Mais cette étude est très intéressante. Après, moi j'avais à cœur de ne pas uniquement m'appuyer sur l'outil sondagier. Donc je vais pas cracher dans la soupe, parce que c'est ça qui me fait vivre. Et je pense, et on s'appuie dans le livre dessus, mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin et diversifier les outils, parce qu'on ne prend en compte qu'une partie du réel. C'est-à-dire toute une série de phénomènes qu'on a abordés tout à l'heure ne sont pas évidents à matérialiser via des sondages. Mais ces études, en plus, ce qui est bien dans l'enquête que vous citez, c'est que c'est une enquête récurrente qui a maintenant 5 ou 6 ans, qui est faite une fois par an, et donc on suit les évolutions au long cours. Donc tendance à... C'est intéressant. Encore faut-il après poser toutes les questions, y compris sur les sujets qui fâchent, mais ce qui est à peu près le cas dans l'enquête qui est indiquée.
Merci. On va prendre les deux dernières questions, monsieur, madame.
Est-ce que vous avez pu considérer faire un lien avec un élément qui me semble relativement important, qui me semble être un fil conducteur, qui est à la différence effectivement de ce qui se passait avec la force du communisme et la force de l'Église qui maintenait le collectif et qui maintenait la population, le fait que depuis une vingtaine d'années, on exacerbe le droit aux droits individuels.
C'est une déclinaison du phénomène d'individualisation, de montée en puissance de l'individualisme. Dans l'ouvrage, je ne pouvais pas traiter de tout, mais j'ai notamment montré avec cette question des prénoms, le fait qu'on est parti de 2000 prénoms différents à 13 000 aujourd'hui, 13 000 prénoms différents, l'INSEE met de côté 50 000 naissances, elle met dans la catégorie prénom rare. Alors, on a été regarder qu'est-ce que ça veut dire un prénom rare pour l'INSEE. C'est un prénom qui est donné au mieux deux fois dans l'année en France. Donc je vous redonne les chiffres, 760 000 naissances, 380 000 garçons, 380 000 filles. Et donc vous êtes seul avec un autre sur 380 000 cette année à porter le même prénom. Donc là, il y a une médaille à donner à vos parents parce qu'ils ont bien bossé. Et blague à part, historiquement, on donne le prénom du grand-père ou de la grand-mère, souvent. On inscrit l'enfant dans une lignée, dans un héritage. Aujourd'hui, c'est la distinction, pas n'importe laquelle. On se remet dans des groupes quand même. Cathos, juifs, arabo-musulmans, bretons, etc. Mais on se distingue quand même. Donc là, on a bien une illustration du phénomène d'expansion sans limite de la sphère individuelle jusque dans le prénom. Hein. C'est-à-dire que ça devient l'alpha et l'oméga des parents, que l'enfant soit unique et soit le moins assimilable ou le plus distinguable, si c'est pas très français, vis-à-vis des autres. On voit là, pour moi, c'est une illustration assez forte, et effectivement, tous ces droits individuels, le droit A, est extrêmement fort.
Je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que cette fragmentation de la société française n'est pas applicable à toute société occidentale, ou si vous pensez que c'est plus particulièrement un phénomène français, hexagonal.
Alors, j'ai la réponse toute faite parce que j'y ai droit à chaque fois. mais c'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas un bagage de données et une connaissance fine des autres pays occidentaux. On peut néanmoins considérer que ce phénomène, il est commun et qu'on l'observe partout. C'est-à-dire le déclin des grandes idéologies, l'éclatement de la classe moyenne, métropolisation, etc. Quand vous regardez le vote Trump ou le vote pour le Brexit, je vois les cartes sont les mêmes que chez nous, c'est-à-dire métropole contre périphérie, etc. À ceci près que notre pays est, je pense, de par son histoire, moins bien armé et moins bien préparé à faire face à cette fragmentation. J'avais une journaliste belge qui m'interrogeait là-dessus, et je lui ai demandé, mais comment ça se passe, les mariages mixtes en Belgique, entre flamands et wallons? Alors elle réfléchit, elle me dit, je crois que ça n'existe pas. Alors j'ai dit, ben, vous voyez, pourtant la Belgique existe, mais depuis le début, vous avez marché en silo. Et donc, aujourd'hui, on rajoute des couverts autour de la table, parce que ça se fragmente, ça fait pas plaisir, mais on sait faire. Regardez l'incompréhension de beaucoup de journalistes français par rapport à la crise catalane. Ils comprennent pas. Ben, on va pas prendre parti. En gros, on a 50%, plus ou moins 2-3 points, des habitants de cette région qui se considèrent comme catalans et pas comme espagnols. C'est incompréhensible pour un Français. Tous les pays qui ont cette tradition fédérale, aujourd'hui, sont on a vu, hein, on m'avait interrogé sur le terrorisme, l'Espagne n'a pas été exemple d'attaque, par exemple, il y a des tensions qui sont très fortes, mais dans l'ADN, si on peut parler comme ça, de ces pays, la diversité a plus souvent eu droit de cité que chez nous, même si chez nous elle existait de facto, mais le discours officiel c'était « je veux voir qu'une tête ». Et donc je pense qu'on est moins bien armé pour faire face à cela. De la même manière, notre pays s'est beaucoup construit autour de l'État, autour des grands groupes qui dépendaient de la commande publique, et donc dans une société plus atomisée, plus véloce, etc., on voit que les règles n'ont pas été écrites par nous. C'est des règles qui sont en plus anglo-saxonnes et qui sont plus adaptées. Ces sociétés-là, même si ça pose aussi beaucoup de difficultés, c'est plus adapté. Donc on peut se rassurer en disant que c'est pareil partout, mais je pense que de par notre histoire et notre culture, on est plus gêné et plus percuté par ces évolutions que d'autres sociétés, notamment les sociétés fédérales ou multiculturelles de naissance, j'allais dire, comme les États-Unis.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet.
Merci à vous.